Les rencontres d'Edmond Morel.
Vient de paraître un nouveau roman de Patrick Modiano. Modiano, dont on dit, disons assez couramment, que c'est un des plus grands écrivains français contemporains. On le cite dans le même souffle que Le Clésio, et jadis on ajoutait aussi Tournier, mais enfin il y a tellement longtemps que Tournier ne publie pas qu'il a un peu quitté la scène. Modiano, pourquoi Modiano? Parce que dans le cas de Le Clésio, on peut argumenter en disant c'est un écrivain planétaire, en fait, c'est quelqu'un qui a une vision très très vaste du monde contemporain, qui a une perspective philosophique aussi, qui passe par l'extase matérielle, comme il l'a écrit, etc. C'est un vrai grand écrivain avec un grand G et un grand E. Modiano, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de creuser le même sillon depuis le début des années 70, donc ça va bientôt faire 40 ans, ça fait même 40 ans, je crois. La place de l'Étoile, c'était à ce moment-là. Et puis il y a eu les boulevards de Ceinture, après la place de l'Étoile, et entre les deux, la Ronde de Nuit. Trois premiers titres qui indiquent déjà qu'on est dans un cercle avec un centre noyau, place de l'Étoile, la Ronde de Nuit, les boulevards de Ceinture. Il a annoncé la couleur avec une extraordinaire netteté dès son plus jeune âge. Donc il commence à écrire à 25 ans et il est tout de suite dans son univers et dans sa manière. Alors, pour voir une idée de la manière, je vais simplement lire le début du nouveau roman qui s'appelle L'Horizon. Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés nets, des visages sans nom, des rencontres fugitives. Tout cela appartenait à un passé lointain, mais comme ces courtes séquences n'étaient pas liées au reste de sa vie, elles demeuraient en suspens dans un présent éternel. Il ne cesserait de se poser des questions là-dessus et il n'aurait jamais de réponse. On a rarement vu un écrivain qui annonce la couleur comme ça. Les 10 premières lignes de son livre disent tout sur sa vision du monde, sur son appréhension du monde, sur sa manière d'en parler, sur ses insuffisances, sur sa conception du temps. Parce que autant Le Clésio est un écrivain de l'espace, autant Modiano est un écrivain du temps. Et d'un temps, d'un temps inscrit dans un seul espace, quasiment, dont Paris est le centre, pas parce que Paris est une grande ville où vous avez de lumière, c'est parce que c'est la ville de son enfance, tout simplement, et qu'il a une façon de dire un nom de rue à Paris, comme personne ne peut le dire, que ce soit un nom qui nous est plus familier ou moins familier, il y a une patine là-dessus, il y a une poésie là-dessus qu'il n'y a que lui qui rende. Alors bon, il y a d'autres espaces, il y a Évian par exemple, mais là on sait très bien pourquoi c'est Évian. C'est parce que Évian, c'est lié à la guerre, c'est lié à l'ambiguïté, c'est lié à cette période de l'occupation. Est-ce qu'on est vraiment en zone libre ou en zone occupée? Tout un vocabulaire qui est devenu, grâce à Modiano, mythologique et qui est celui d'une des périodes, au fond, les plus sombres de l'histoire de France. C'est la France, tout simplement, vidée de son contenu par l'ennemi, qui en plus se conduit dans ce pays d'une façon relativement différente des autres pays. C'est-à-dire qu'il y a, et on le sait d'ailleurs par des témoignages de l'entourage d'Hitler, que des fantasmes ont pu courir sur la destruction de Paris, vieille idée allemande d'ailleurs qu'on trouve chez d'autres, notamment Wagner. Et puis finalement, on épargne Paris. On épargne Paris parce que c'est intouchable, parce que c'est le mythe, c'est tout ça. Alors lui, Patrick Modiano, il naît là-dedans, donc à la toute fin de la guerre, disons au début de la libération, mais cette ville est encore totalement imprégnée par ça, et avec le temps, on va apprendre que s'il est tellement concerné par ça, c'est parce que sa parentèle se est plongée là-dedans, complètement. Et nous allons apprendre aussi, vous aurez remarqué que à la première ligne du roman apparaît un nom propre, qui est un nom flamand, que j'ai prononcé Bosmans. Et Bosmans, c'est peut-être le Bosmans de la comédie bruxelloise. Et qu'à Paris, tout le monde prononcera Bosmans, bien entendu. Pourquoi ce nom-là? C'est parce que de plus en plus, Modiano avoue qu'il a des ascendances flamandes. Et ça apparaît très clairement dans son livre Pédigré, dont il n'a pas choisi le titre par hasard en hommage à Simenon. D'ailleurs, s'il y a un écrivain dont Modiano est proche, c'est Simenon, par son sens de l'atmosphère, son sens de la description des lieux, des rues, des déambulations et tout ça. Alors là, je vais quand même me permettre de raconter une anecdote personnelle liée à Modiano, parce qu'elle est, je crois, très révélatrice. C'est que donc Modiano a une très mauvaise réputation auprès des journalistes, parce qu'on sait qu'il est ininterviewable, qu'il ne termine aucune phrase, qu'il ne construit aucune phrase, que tout ça donne une espèce de bouillie dont il est très difficile de faire quelque chose. C'est même pas, on ne peut même pas corriger ça au montage. Bien. Eh bien, moi, j'ai interviewé un jour Modiano pendant une dizaine de minutes et il terminait toutes ses phrases. Et ça se passait dans des conditions très particulières. J'avais eu une demande d'un ami producteur à la radio flamande, à la VRT, et qui me dit, non, à la télévision flamande, et il me dit, on a envie dans notre émission littéraire d'avoir une séquence Modiano. Est-ce que tu crois que c'est possible? Et j'ai une intuition, et j'ai dit oui. À mon avis, la RTBF n'aura jamais une interview de Modiano, ou très difficilement, vous l'aurez tout de suite. Il téléphone chez Gallimard, il obtient, en disant télévision flamande, il obtient Modiano et Modiano dit sans hésiter d'accord. Le rendez-vous se fait pour l'enregistrement d'une séquence en plein air dans les jardins des Tuileries. Et nous faisons une interview de 10 minutes, 12 minutes sans interruption, assez difficile à réaliser en tout cas, puisque l'idée c'était que nous marchions côte à côte, filmé par une caméra qui reculait donc devant nous, en plan unique. Bon, ça s'est fait, mais sans le moindre problème. La chose s'est terminée, mise en boîte en 12 minutes, c'était fini. Et à ce moment-là se produit la chose extraordinaire, c'est Modiano nous dit, et quand il dit nous, toute l'équipe, c'est-à-dire le producteur, le réalisateur flamand, le preneur de son, le caméraman, il y a même une assistante, hein, il dit, maintenant c'est moi qui vous invite et c'est moi qui vous interviewe. Et il nous amène place Vendôme, j'oublierai jamais, sur une terrasse. Et effectivement, il commence à littéralement cuisiner, surtout le preneur de son et le caméraman qui étaient en Versoix. Et il les interroge sur des noms précis. Il avance des noms précis. Il dit, que sont devenus ces gens-là, etc. Moi, je me souviens d'un nom qui est Nils. Nils, qui était en Versoix à l'origine, mais qui a fait toute sa carrière dans l'Oreca bruxellois, puisque c'est le fondateur de la Marie-Joseph du Vieux-Saint-Martin. Vous aurez remarqué, quand on se rend dans ces établissements, en tout cas, c'est le cas du Vieux-Saint-Martin, vous avez au mur quelques chefs-d'œuvre de l'art belge contemporain, c'est-à-dire du groupe Cobra. Pourquoi? Parce que Nils, en fait, était à l'origine un marchand de vin en Versoix qui s'est beaucoup enrichi sous l'occupation et qui, après la guerre, a investi à la fois dans ses établissements bruxellois et dans l'art moderne. Or, il se trouve que ce monsieur Nils, Modiano en avait beaucoup entendu parler par sa mère, qui, comme vous savez, est une anversoise, qui était comédienne, mais qui n'a pratiquement pas fait de théâtre ni même de cinéma en Belgique, mais en a fait tout de suite à Berlin, engagée à la UFA. Et du coup, on sent bien que Modiano est quelqu'un qui est directement affecté par la tragédie de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, par le rapport à l'Allemagne, qui est évidemment un rapport extrêmement ambigu, parce qu'il est de père panaméen, je crois, Le nom est vaguement panaméen, mais je crois qu'il est, il n'a pas beaucoup connu son père. Donc il a été élevé par sa mère, qui, il y a peu d'années encore, vivait toujours. Mais par une mère dont on ne sait pas très bien que dire, mais qu'il a eu le courage de raconter beaucoup plus tard. Et là, on est au noyau, au syndrome de base d'une œuvre, qui est une œuvre hantée, qui est une œuvre littéralement obsédée par des énigmes absolument impossibles à résoudre. Notamment celle, par exemple, de ne pas savoir quelle attitude prendre à l'égard de l'auteur de ses jours. Donc il y a là une dimension oedipienne, mais tellement profonde, tellement au noyau de la chose, que ça, c'est comme un noyau de pile atomique, ça donne tellement d'énergie qu'on peut développer toute une œuvre au fil des années autour de ça. Et je crois que le frémissement, parce que je dois reconnaître que je lis Modiano depuis le début, parce qu'au fond nous avons en quelque sorte débuté ensemble, puisqu'elle a commencé à publier quand moi j'ai commencé à faire de la critique, et je crois avoir fait les premiers papiers sur Modiano, et puis l'avoir suivi aussi à travers l'œuvre au moment du prix Goncourt, rue des boutiques obscures, je me souviens très très bien de tout ça, le film qu'il a fait avec Louis Malle, La Combe Lucien, c'était aussi quelque chose de très frappant. Quand je vois Modiano à la télévision, puisqu'on le voit quand même quelquefois, je suis toujours très ému parce que je sais quel mal ça lui coûte, sauf dans cette expérience unique, je prétends bien unique, que nous avons eu ensemble par un hasard biographique, mais qui m'avait paru, je ne sais trop comment, parce que je m'entends encore dire au producteur, je lui ai dit, vous allez voir, ça va marcher. Et ça s'est vérifié, je dirais, au moins 10 ans avant l'apparition de Pédigré. J'avais lu vaguement quelque chose à ce propos, mais très furtivement, mais ça m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, là, il y a sûrement quelque chose. Et quand on connaît l'œuvre, on sait, comme il est à ce point tout le temps en train de creuser son passé, eh bien, ce passé, évidemment, essentiel, il est bâti autour de ça. Alors bon, on peut continuer alors un peu la lecture, parce que après cette ouverture qui est en même temps une sorte de choix du registre dans lequel on va écrire, alors il dit « Ces bribes seraient toujours pour lui énigmatiques. Il avait commencé à en dresser une liste en essayant quand même de retrouver des points de repère, une date, un lieu précis, un nom dont l'orthographe lui échappait. Il avait acheté un carnet de Moleskine noir qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste, ce qui lui permettait d'écrire des notes à n'importe quel moment de la journée, chaque fois que l'un de ses souvenirs à éclipse, lui traversait l'esprit. Il avait le sentiment de se livrer à un jeu de patience. » Et je crois que s'il fallait faire un grand essai synthétique sur l'œuvre de Modiano, il faudrait l'appeler « Le jeu de patience ».
Les rencontres d'Edmond Morel.